RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous. Le Tour de France qui fait escale ce soir à la caverne du Pont d'Arc au terme de la 13e étape du Tour de France. Premier chrono de ce Tour de France remporté de main de maître par le Néerlandais Tom Dumoulin. Tout à l'heure, on va évidemment revenir sur ce chapitre sportif de cette 13e étape du Tour de France en évoquant évidemment aussi la nouvelle belle performance de Christopher Froome qui a écrasé, dégoûté la concurrence aujourd'hui et qui a donc conforté une nouvelle fois son maillot jaune de leader. Il est ce soir leader de ce Tour de France avec 1 minute 47 sur son nouveau dauphin, le Néerlandais Bocke Mollema. Adam Yates recule d'un rang, il est 3e à 2 minutes 45, Quintana 4e. Le premier français, c'est Romain Bardet qui pointe ce soir avec un retard de 4 minutes 04. Une étape du Tour de France marquée, on va l'évoquer également, par cette situation bien particulière aujourd'hui. Le Tour avait mal au cœur aujourd'hui et la route du Tour a bien failli s'arrêter, on en reparlera dans un instant. Auparavant, le journal des sports avec l'ami Arnaud Souk qui est avec nous. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors on va évoquer évidemment la nouvelle performance de Chris Froome.
Absolument, donc qui a terminé deuxième donc de l'étape du jour de ce contre-la-montre derrière le Néerlandais Tom Dumoulin, chrono donc remporté par un spécialiste du genre chrono sous très haute surveillance et surtout beaucoup d'émotions sur la route donc du Tour de France après le drame de Nice hier et ses 84 vies fauchées sur la promenade des Anglais peu après les festivités du 14 juillet. Après l'hommage rendu donc ce matin, la minute de silence au départ du contre-la-montre individuel entre Bourg-Saint-Andéol et Vallon-Pont d'Arc, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux, notamment donc de la part de Chris Froome et de Romain Bardet qu'on entendra un petit peu plus tard. Demain, 14e étape a priori réservée aux sprinteurs, 208 km 500 entre Montélimar et Villars-les-Dombes. En tennis, l'image du jour là aussi c'est l'émotion, les larmes de Yannick Noah. Il est revenu lui aussi donc sur le drame de Nice. C'est dramatique qu'on soit de Nice, ou d'ailleurs voilà ce qu'il a dit le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, alors que la France dispute en ce moment même ce week-end son quart de finale justement face à la République tchèque. Ça a plutôt mal commencé hein, d'un point de vue sportif, puisque Joe Wilfried Tsonga s'est incliné tout à l'heure en 5-7 face à Arosol. Et en ce moment même, pour son premier match, Eric Salio, son premier match en Coupe Davis, Lucas Pouille tente de redresser la barre.
Oui, ce sont pas des conditions idéales pour le Nordiste, mais après 35 minutes de Lucas fait bonne figure puisqu'il y a 4 jeux partout face à Jiří Veselý, le numéro 1 tchèque, classé 50e mondial. 4 partout, 40-30 sur la mise en jeu de Lucas Pouille qui n'a toujours pas été briqué.
Merci beaucoup Eric Salio en direct de Trinec en République tchèque. On vous retrouve bien évidemment tout au long de la soirée, tout au long du week-end sur RMC. Une info foot avant de retourner sur la route du Tour. Le milieu de terrain des Bleus, N'Golo Kanté, a donné son accord pour rejoindre Chelsea en première ligue. Il était jusqu'alors à Leicester, hein, tout récent champion d'Angleterre. Il va passer sa visite médicale dans les toutes prochaines heures avant de paraffer un contrat de 5 ans. Le montant de la transaction, 36 millions d'euros. On vous retrouve, Christophe Cessieux, sur RMC en direct de la route du Tour.
Exactement. Merci Arnaud pour ce rappel de l'actualité sportive. Retour donc ici à la caverne du Pont d'Arc. Nous sommes dans l'Ardèche, magnifique département, mais comme partout en France aujourd'hui, c'est vrai que l'ambiance était particulière sur la route du Tour. On va en parler évidemment. Nous allons également revenir sur la très belle performance de Christopher Froome qui a donc conforté aujourd'hui son maillot jaune. Ils sont avec moi en cette journée particulière. J'ai nommé Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
Salut Christophe, salut à tous.
Cyril Guimard également avec nous. Bonsoir Monsieur le Druide.
Bonsoir.
Et Thierry Bourguignon également avec nous. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Alors évidemment difficile de parler de vélo aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier soir à Nice. D'ailleurs les organisateurs du Tour ont longtemps hésité aujourd'hui avant de finalement laisser l'étape se dérouler. Cette 13e étape du Tour de France qui était un rendez-vous important. Le premier chrono du Tour de France au lendemain d'une étape très animée, on le rappelle, avec les incidents qui ont émaillé la course et notamment ce Christopher Froome à pied dans l'ascension du Ventoux qui finalement avait perdu du temps mais qui à l'arrivée et après délibération avait retrouvé toutes les secondes qu'il avait perdues. Émotion particulière aujourd'hui sur les routes du Tour, on va en parler avec Yann Pécheral qui nous a rejoint dans ce studio. Salut Yann.
Bonsoir à tous.
C'est vrai qu'on a hésité hein, du côté de la direction avant de finalement décider décidé de laisser se disputer cette étape, mais l'ambiance était lourde, notamment ce matin au village départ.
Oui, réunion de crise ce matin avec les dirigeants du Tour de France et puis également les autorités. Il a été décidé que le Tour devait se poursuivre. Une minute de silence, très émouvante, au village départ. Ça, c'était pour l'avant-course. Et puis une minute de silence également à l'arrivée. Tous les coureurs, bien sûr, qu'on a vu passer et qui ont réagi étaient très émus. Et les grands champions que sont Christopher Froome et Tom Dumoulin également. Froome n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de l'étape sur sa performance sportive. Il n'a pas voulu parler de l'étape. Et il a répondu aux questions des journalistes en français et en anglais, uniquement sur les attentats, sur les victimes. C'est une région qu'il connaît par cœur. Chris Froome, il est à Monaco, il roule à Nice. Et donc il avait un petit peu le cœur qui saignait lui aussi. Tom Dumoulin, pareil. On a voulu lui poser une question tout de suite sur sa belle victoire, parce que c'est vrai qu'il fait une performance magnifique, Tom Dumoulin. Lui non plus n'a pas souhaité trop se revenir là-dessus. Il nous a dit je suis très partagé, évidemment je suis content d'avoir remporté cette étape, mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est ailleurs. Et toutes ses pensées à Tom Dumoulin et bien été pour les victimes et les proches des victimes. Les deux sont arrivés en zone mixte avec un brassard noir sur le maillot, et il y avait vraiment beaucoup d'émotions de leur part. Et voilà, c'était un petit peu cette journée très particulière, avec pas de musique autour du tour. Il n'y avait aucune festivité, hein. Les organisateurs avaient souhaité que tout soit fait dans la sobriété.
Merci Yann pour toutes ces informations. On va écouter tout de suite Christian Prudhomme. C'était ce matin au moment du départ, lorsque le directeur du Tour de France a décidé que la route du tour devait se poursuivre aujourd'hui. On l'écoute.
C'est une journée de deuil. Nous connaissons très bien Nice, où nous organisons chaque année au mois de mars Paris-Nice. L'étape du jour, le contre-la-montre dans l'Ardèche, est maintenue. Nous ferons dans quelques instants une minute de silence au village départ. Il y aura ce soir aussi une minute de silence à l'arrivée de l'étape. Nous souhaitons que cette journée soit digne, en hommage aux victimes. Nous pensons aux familles, nous présentons nos condoléances à tous ceux qui ont été touchés, qui ont perdu un être cher. Nous nous sommes interrogés en effet, mais nous pensons, en accord avec les autorités de l'État, que la course doit continuer, qu'il ne faut pas céder aux pressions de gens qui veulent que nous changions notre façon de vivre. Le Tour de France continuera dans la sobriété, dans la dignité. Je vous remercie.
Voilà, sobriété, dignité et moment d'émotion aussi sur le podium. Après l'étape, Yann en parlait il y a quelques instants, ils sont tous montés en même temps sur le podium, sans musique, avec des visages graves. C'était une image émouvante, Jérôme Pinault, tout à l'heure, hein, sur la route du Tour et notamment sur ce podium.
Oui, émouvant. De toute façon, c'était une journée très pesante pour tout le monde. Je crois que on l'a dit, on l'a répété, ils sont des athlètes, mais des hommes avant tout, des pères de famille pour la plupart d'entre eux. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a simplement, comme je le disais tout à l'heure, fait le boulot. On est allé faire la compétition. Certains ont évoqué même le terme de plaisir. Aujourd'hui, le peu de gens qui avaient fait le déplacement sur les routes ici en Ardèche, et ben, ils sont venus voir un spectacle, se changer les idées quelque part, et les coureurs sont là pour ça, donner du plaisir aussi aux spectateurs. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire du côté de tous les coureurs, mais c'est clair qu'il n'y avait pas beaucoup de cœur aujourd'hui. La tête et les cœurs étaient bien évidemment à Nice.
Évidemment. Cyril, Christian Prudhomme a-t-il pris la bonne décision? Le show devait-il continuer aujourd'hui, avec évidemment cette dignité, cette sobriété montrée par à la fois les organisateurs, les coureurs et tous les gens qui entourent le Tour de France?
J'adhère totalement aux décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, ça n'a pas été un show, ça a été la continuité de ce qu'est le Tour de France et la continuité de ce qu'est la vie. Le Tour de France ne doit pas s'arrêter, la vie ne doit pas s'arrêter, et on sait très bien que tous ceux qui sont derrière ces différents attentats le font justement pour que l'on arrête à un moment, et on leur donne raison. On n'a pas à crédibiliser en arrêtant toutes nos activités parce qu'ils ont fait des actes absolument ignobles. La vie doit continuer, on ne va pas tous s'arrêter. Je disais ce matin, écoutez, c'est simple, est-ce que sous prétexte qu'il y a un attentat, il ne faut pas couper le blé avec lequel on va faire du pain, avec lequel on va vivre. Donc il faut continuer, la vie doit continuer. Mais on ne doit pas oublier, et on doit prendre aussi les dispositions pour faire en sorte que, non seulement il y en ait le moins possible, mais faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout.
Thierry, est-ce que tu partages, j'imagine, comme nous tous, partageons l'analyse et l'avis de Cyril?
Oui, bien sûr, puisque c'est tout ce qu'est le tour, c'est ce que les terroristes veulent détruire. La joie de vivre, le partage, les sourires, la musique. Donc même dans la tristesse, on se devait de continuer pour montrer à ces gens-là que nous sommes plus forts et qu'ils nous ont fait mal, bien sûr, parce qu'il faut penser aux victimes et aux familles des victimes.
Alors des conditions
continuer.
Conditions, je le disais, particulières pour tous les coureurs qui n'avaient pas le cœur. En tous les cas, pour les Français, on le rappelle, Jérôme, il y en a beaucoup qui habitent la région méditerranéenne, la Côte d'Azur, Monaco, Nice. On va écouter tout de suite Amaël Moinard, justement rencontré ce matin avant l'étape. Lui, est niçois tout simplement. En tous les cas, sa famille est niçoise. Il avait le cœur gros ce matin au moment de prendre le départ.
C'est ma femme qui m'a appelé ce matin au réveil. Une horreur, quoi, de se réveiller comme ça avec une telle nouvelle. Et puis, elle m'a dit, voilà, ils sont pas allés hier au feu d'artifice, ils étaient fatigués, mais c'est juste horrible d'apprendre ces choses-là. On veut, quel que soit l'endroit où ça se passe, on veut vraiment pas voir ça, qu'on a juste envie de profiter, de vivre. Et puis, quand on aime la vie, on n'est rien comparé à ce genre d'individus.
Voilà, Amaël Moinard à l'image de tous les coureurs. Romain Bardet le disait tout à l'heure pendant le direct, Jérôme, il avait le cœur gros. Hein. Est-ce que ça peut perturber la performance? D'abord parce que certains ont mis beaucoup de temps à trouver le sommeil hier soir, hein, et il n'y a pas que les coureurs d'ailleurs, mais est-ce que ça peut perturber un coureur? Il n'a pas mis sa contre-performance, si on peut parler de contre-performance aujourd'hui, sur le compte de cette difficulté à faire du vélo aujourd'hui, mais malgré tout, ça influe. Hein.
Oui, peut-être quelque part, ça a dû influer surtout, comme tu le dis Christophe, sur le sommeil, sur la récupération hier soir. Les coureurs sont rentrés à l'hôtel aux alentours de 21h. Le drame est survenu autour de 22h30, 23h, je crois. Donc, effectivement, les coureurs, avant de s'endormir, regardent la télévision et ont dû certainement regarder ça jusqu'à très tard dans la nuit. On a besoin de s'informer aussi quand on est coureur sur le tour. On est toujours en phase avec l'actualité et certainement que certains ont eu du mal à trouver le sommeil. Après, ça dépend beaucoup des coureurs. Certains sont très sensibles à ce genre de choses, d'autres un peu moins. Dans l'ensemble, ils sont tous très professionnels. Ils ont su se reconcentrer aujourd'hui sur l'exercice. Mais c'est vrai que chez certains, peut-être que ça a influé plus que sur d'autres. On pense notamment à nos Français, mais aussi aux coureurs étrangers qui vivent à Monaco. La plupart des grands coureurs aujourd'hui vivent à Monaco et ont leur famille sur la Côte d'Azur et qui sont souvent allés se promener sur cette promenade et peut-être même hier avec certains d'entre eux sur la promenade pour voir le feu d'artifice. Donc ça a pu effectivement influer chez certains coureurs, en tout cas ce qui concerne le sommeil.
Cyril, tu partages l'analyse de Jérôme. Ça peut avoir une influence sur la performance, comme ça, d'être perturbé, d'avoir du mal à trouver le sommeil après de tels actes.
Tout dépend à quel degré on va s'investir dans l'événement. Mais si on regarde les résultats de l'étape aujourd'hui, on se rend compte que les coureurs ont fait le boulot. Ils ont pris le bleu de chauffe. Ils étaient sûrement moins gai, moins souriant que les autres jours, mais ils ont continué la vie, ils ont continué le tour, et quand on regarde les résultats sont quand même tout à fait logiques par rapport au potentiel des différents coureurs qui jouaient le classement général. Après, bon, c'est un autre problème, mais je pense que le classement n'a pas souffert de cet événement.
Absolument. Très bien, voilà donc pour ces attentats terribles qui ont marqué aussi la route du Tour et toute la France et le monde entier. On va dans un instant s'intéresser maintenant à la performance sportive, le volet sportif de cette étape avec la victoire de Tom Dumoulin dans le vent aujourd'hui, mais qui a bien passé le vent, tout comme Chris Froome qui lui a conforté son maillot jaune. On en parle dans un instant. A-t-il déjà remporté le Tour de France? Mollema, Quintana et les autres vont-ils se battre pour être uniquement sur le podium dans quelques jours à Paris? À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
De retour sur la ligne d'arrivée de cette 13e étape du Tour de France qui conduisait donc les coureurs et non pas le peloton, parce qu'aujourd'hui on ne courait pas en peloton mais face au chrono qui donc menait les coureurs de Bourg-Saint-Andéol à la caverne du Pont d'Arc. Nous sommes dans l'Ardèche, 37 500 km donc pour ce chrono remporté de main de maître par Tom Dumoulin, cet incroyable coureur hollandais, le Hollandais volant, on peut l'appeler comme ça. Il s'était déjà fait remarquer il y a quelques jours en remportant l'étape de montagne au sommet à Arcalis. Et aujourd'hui, eh bien, elle signe son deuxième succès d'étape sur les routes de ce Tour de France. Cyril Guimard, c'est un coureur très complet que ce Tom Dumoulin. On savait que c'était un rouleur. Il nous avait peut-être un peu plus surpris l'autre jour à l'arrivée à Arcalis. En tous les cas, c'est un beau vainqueur. Et aujourd'hui, il n'a pas fait de détails. Hein,
non, mais il a été fidèle à sa réputation de rouleur. Rappelez-vous, l'an dernier, il s'était un peu planté, enfin si on peut dire, sur le prologue du Tour de France chez lui là-bas aux Pays-Bas, par un coureur que l'on n'attendait pas d'ailleurs. Et cette année, on sait qu'il est venu sur le Tour non pas avec des ambitions au classement général, ce que l'on aurait
pourrait. Il pourrait en avoir des ambitions au classement général.
Ben, oui, si on prend le dernier Tour d'Espagne où il a été leader jusqu'à la dernière ou avant-dernière grande étape de montagne, on pensait même qu'il allait venir en tant que leader. En fait, il s'est complètement polarisé sur les Jeux Olympiques et sur le contre-la-montre des Jeux Olympiques.
Oui, dont il sera le grand favori.
Dont on peut dire qu'il sera le grand favori.
Il s'était imposé sur le prologue du Tour d'Italie cette année aux Pays-Bas chez lui. Il a porté pendant 7 jours, c'est 8 jours le maillot rose. J'étais de parmi ceux qui pensaient que Tom Dumoulin pouvait aller amener ce maillot rose très loin. Et il avait répondu aux journalistes présents, non, je n'ai pas d'objectif du classement général. Le seul objectif que j'ai, c'est d'être champion olympique du contre-la-montre.
Thierry, il peut un jour se découvrir des ambitions pour le classement général, Tom Dumoulin. Qu'est-ce qui lui manque pour passer régulièrement la haute montagne? Parce que l'autre jour, il est arrivé en tête, mais après s'être échappé dans l'étape, il ne s'est pas mesuré évidemment à tous les grands leaders pour le classement général. Est-ce qu'on peut changer d'objectif avec la carrière qui avance?
Ben, je pense que moi, il m'avait surpris déjà à la Vuelta, quand il avait gardé le maillot longtemps et qu'ils avaient mis vraiment du temps à le faire tomber. Mais
tomber à la veille de l'arrivée l'an dernier, hein,
oui.
Seulement.
Ouais. Oui, non, mais c'est ce que je dis.
Ça, ouais.
Mais sur le tour, je ne pense pas, parce que sur un tour comme on a aujourd'hui, un peu trop montagneux pour lui, à mon goût, je pense qu'il limiterait le maximum, mais il lui manque encore ce côté grimpeur pour finir les étapes telles que qu'on va connaître toute la semaine.
Ouais,
et dans les Alpes surtout, parce que bon, là c'est sûr qu'il nous a surpris, Arcalis. Et il était dans l'échappée, et un gars comme ça, Dumoulin dans l'échappée, on sait qu'il faut pas lui laisser 10 mètres parce que la machine a roulé sur un final comme ça avec un pourcentage moyen. Et ben, on le revoit pas. D'ailleurs, il l'a dit lui-même
à l'arrivée à Arcalis. Il a dit, une fois que j'ai vu que j'avais fait le break avec les autres compagnons d'échappée, je me suis mis en mode chrono, et c'est vrai qu'il a cette capacité là. Mais à l'avenir, si par exemple Dumoulin a en tête de gagner un classement général et que le Tour lui offre le parcours tel que il l'a été quand Bradley Wiggins s'est imposé.
Oui, avec beaucoup de chronos.
Ah bah oui, mais ça fait beaucoup de conditions quand même.
Oui, oui, je sais, mais tu sais, il a un peu les mêmes qualités que Wiggins.
Oui, je le vois mal gagner un Tour.
Près, c'est vrai qu'il arrive à trouver la potion magique qui permet d'arriver au poids de Wiggins pour monter les cols.
Ah, oui, il est un peu lourd.
Faut jamais oublier l'histoire.
Peu... Hein. Ouais, il est un peu lourd.
Il a réalisé que si on perdait un os pour remporter le Tour de France.
C'est-à-dire que s'il perdait 100 grammes, il perdait un os.
Et puis Wiggins, de suite, il a repris 8 kilos derrière. Hein.
Ouais,
donc c'était vraiment torturé pour gagner le Tour.
À la base, c'est vrai que c'est un coureur qui est un pur rouleur et qui a l'an dernier épater tout le monde en montagne avec une grosse condition physique. Il a du punch aussi, Tom Dumoulin, parce qu'il a gagné aussi des courses en Belgique et une course par étape en Belgique, le Tour de Belgique, avec des arrivées en bosse de 2-3 bornes, donc il est capable de briller.
C'est bien dommage qu'avec un nom pareil il ne soit pas français, notre ami Dumoulin, parce qu'il n'a pas vraiment un nom néerlandais, hein. Il doit avoir des origines quand même.
Les Moulins,
c'est hollandais, mais ça se dit pas comme ça, je crois, aux Pays-Bas, hein. En tous les cas, donc victoire de Tom Dumoulin qui s'impose avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur l'autre grand vainqueur du jour, évidemment, c'est Christopher Froome. On pensait que Froome serait peut-être capable de remporter l'étape aujourd'hui. Froome n'a pas remporté l'étape, mais Cyril, c'est tout comme, parce que derrière, évidemment, il a fait de gros écarts avec tous ses rivaux pour le classement général, Chris Froome, qui ne s'est pas ressenti finalement de sa mésaventure d'hier sur les pentes du Ventoux.
Et pourquoi il aurait pu s'en ressentir?
Je sais pas, peut-être un peu de panique,
la course à pied, c'est pas la même chose.
Il devait plutôt être heureux qu'on le reclasse.
T'as les courbatures de la course à pied.
Si t'as des courbatures au bout de bout de 100 mètres de course à pied, il faut faire un autre métier.
Ah, mais c'est pas un spécialiste, même si maintenant il va peut-être faire les jeux.
T'as vu, Bourgui, on a eu l'explication, hein, parce que c'était quand même la seule chose qu'on n'arrivait pas à expliquer hier. Après, pourquoi il a couru. Il a couru parce que les motos lui ont dit de courir parce que plus loin il y avait des barrières et qu'il y aurait la place pour la voiture. C'est pour ça qu'il a couru.
Ah, okay, d'accord. C'est ça, mais c'est la bonne explication. Ouais. D'accord. Alors, Christopher Froome, donc.
Donc, c'était même pas pour faire le spectacle.
Non, c'est pas pour le show.
Non, mais franchement, là, t'aurais jamais dû me dire ça parce que la journée est foutue.
En tous les cas, l'image restera évidemment gravée dans toutes les mémoires du Tour de France. Chris Froome, donc, deuxième à 1.03. Tous ses rivaux sont beaucoup plus loin. Mollema est sixième à 1.54. Donc,
lui, il m'impressionne.
Ouais, on va en reparler. Les autres sont beaucoup plus loin. Valverde 15e, Van Garderen 16e, Adam Yates qui était ce matin encore le dauphin de Chris Froome est à 3.01 à la 18e place, Richie Porte 21e, 20e pour Quintana, et puis le premier français, il est loin, c'est Roux 24e, sans parler de Romain Bardet qui lui prend la 30e place. On va
le premier français, c'est Jérôme Coppel.
Oh là là, on l'a oublié alors qu'il a fait une très belle performance.
Ce qu'il faut regarder, c'est que quand on regarde le classement, on s'aperçoit qu'en fait il y a deux classements, hein. Il y a le classement de ceux qui sont partis dans les 25, derniers.
Les changements de conditions météo, ouais.
Parce qu'on retrouve, à des places qu'on a, même si ce sont des très bons coureurs, mais avec des écarts surtout. C'est pas trop la place, c'est l'écart qui m'amène à cette analyse. On a Oliveira qui est à 1.31, c'est-à-dire qu'il perd que 29 secondes, il perd que 28 secondes sur Froome. Il perd que 1.30 sur Dumoulin, mais Dumoulin, on peut dire qu'il est lui au-dessus. Coppel ne perd que 30 secondes aussi. Ouais. C'est-à-dire que il y a ceux qui sont partis, vous avez Rohan Dennis qui lui est un petit peu plus loin, mais il marche moins bien. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une catégorie de coureurs qui ont pratiquement un gain entre 30 secondes et une minute.
Les conditions ont changé sur le parcours.
Les conditions ont changé. Oui, bah avec
le vent s'est levé.
Il s'est pas levé. Il s'est renforcé. Il y a longtemps qu'il est levé. Ça fait 3 jours.
Ça fait 3 jours. Et il pourrait à nouveau jouer des tours demain. Je crois qu'on annonce un peu d'une chute du Mistral. Bah oui, on arrive au troisième jour.
Il coince un peu.
Dans la des Alpes. Christopher Froome qui est donc toujours leader, ça évidemment on le savait, on s'en doutait, avec désormais 1 minute 47 d'avance sur Bokke Mollema et 2.45 sur Adam Yates, sans parler de Quintana, quatrième, il descend du podium, notre ami Quintana, il est à 2.59. Évidemment, c'est une belle journée, ou presque, pour Christopher Froome, en tous les cas, c'est ce que pense son directeur sportif, Nicolas Portal, qu'on écoute.
Ouais, on a pris un avantage, mais c'est clair que non, ça se termine pas tout de suite, non, il y a la montagne, et on sait comme toujours que Nairo est très bien en troisième semaine. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il a fait un super chrono. J'ai vu aussi Jay a fait un très bon chrono, mais Chris a fait un super chrono. Il a mis du temps à tous ses rivaux, spécialement ceux qui jouent le classement général. Donc voilà, c'est juste parfait pour nous, quoi.
Thierry, journée parfaite pour Chris Froome aujourd'hui. Hein. On peut difficilement rêver mieux.
Oui, mais Christophe, quand j'entends parler de Quintana encore, je ne sais pas où il.
Mais oui, mais il faut bien qu'il se trouve un adversaire.
Ah, oui, mais bon, à la rigueur, c'est plus Quintana, c'est Mollema. Mollema a montré autre chose entre hier et aujourd'hui. Moi, il m'a surpris, même si on l'a vu déjà par le passé faire cinquième, je crois, du Tour, mais. Là, il a de l'adversité et c'est lui qui est allé chercher Chris Froome hier dans le Ventoux, hein, quand même. Ouais. Donc moi je mettrais plutôt un peu d'argent sur Mollema que sur Quintana parce que j'ai l'impression que il s'est mis en mode veille et il n'arrive plus à se réveiller.
Ouais. Sixième du Tour en 2013, effectivement, pour Bokke Mollema. Alors, est-ce que c'est lui le deuxième homme? Est-ce que c'est lui qui montera sur la deuxième marche du podium? Voir Cyril, pourquoi pas, sur la première marche, est-ce qu'il peut encore inquiéter Chris Froome? Ou est-ce que c'est de la fiction? Pas la peine de mentir à nos auditeurs.
Non, c'est pas la peine de les emmener sur une fausse route ou de leur donner de faux espoirs. Non, mais ça, je sais, on sait jamais, mais.
Non, une montée.
Tu as raison.
Une moto qui cale.
Ben oui, une moto qui cale, sauf qu'on le reclasse à ce moment-là, c'est normal.
Ah ben non, ils vont pas le faire tous les jours.
Ah ben on sait jamais, tu sais, l'histoire peut se répéter, mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, on s'aperçoit qu'il a à 10 secondes près la même avance sur Quintana.
Que l'an dernier.
Bon, je comprends son directeur sportif qui dit oui, mais c'est pas sûr. Il y a encore des adversaires. Il y a encore de la montagne. Sauf qu'il oublie de dire que c'est dans la montagne que Fromm est le plus fort. Et puis, il nous dira encore, il y a des bordures. Zut. Ah merde, c'est pas bon encore. Et quand il y a eu des bordures, c'est lui qui a pris du temps.
Il y a des descentes.
Il y a des descentes. Ah zut, c'est encore là où il prend du temps. Alors, faudra quand même m'expliquer où il peut être mis en danger. Et ben, puis,
faut pas qu'il tombe malade.
Il faut pas qu'il tombe, mais surtout qu'il puisse pas repartir, quoi. Il faut être clair.
On peut souhaiter ça.
Mais c'est pas ce que je souhaite. C'est bien pour ça que je dis que le tour est fini.
Il y a des chances qu'il soit fini, effectivement.
Je vois pas pour la gagne.
Après, il y a aussi un problème. Bourgui, je sais pas si t'as le classement sous les yeux, mais moi, ce qui me pose problème, c'est que on a et Valverde et Quintana de la même équipe, 4e et 5e, et Van Garderen et Porte de la même équipe. 6e et 8e. Ces deux-là ont déjà un objectif. J'ai l'impression que c'est de faire premier de l'équipe. Donc c'est pas eux qui vont mettre le feu. Et comme le petit Yates et le petit Mollema sont très contents d'être là, et si on peut leur faire la photo à Paris, ils prennent de suite, ils signent, on risque de s'embêter un peu.
Qui va avoir envie de monter sur le podium au moins quand même, non?
Ça se voit, regarde, à son sourire.
Oui, mais Christophe, pour attaquer Froome, on l'a vu hier, on a besoin d'une équipe, comme le disait Cyril. On a besoin d'au moins éliminer les Sky, et le seul équipier qui est capable d'éliminer les Sky, c'est Alejandro Valverde qui se trouve à 25 secondes, 20 secondes derrière lui.
Il va peut-être se faire la bagarre, il va pas se sacrifier pour Quintana, je le dis depuis le début.
D'autant plus, Jérôme, que les deux dernières étapes ont montré que Valverde était meilleur que Quintana.
Ben oui.
Parce que dans le Ventoux, quand il a attaqué, c'était autre chose que Quintana.
T'appelles ça une attaque, toi?
Ben non, mais c'était autre chose que la rétropoussette qu'il a fait.
En fait, il a fait une rétropoussette sur Froome. C'était les plans de l'équipe Movistar. Hein. On a envoyé Valverde pour essayer de gagner le Giro, en disant au moins Nairo va être tranquille, il y aura pas un Valverde dans les pattes autour, il va être libéré. Et Valverde, il est toujours là, il est cinquième.
Si c'était leur plan, faut quand même qu'ils revoient leur architecte. Hein.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est surtout que Valverde, à mon avis, il s'est dit ok, je vais au tour, je fais l'équipier que si je suis à la rue. Mais je pense qu'il marche très bien et il va monter en pression parce qu'on le sait. Quand on sort d'un grand tour, on a souvent du mal à mettre en route. Mais Valverde, maintenant qu'il est là, il va plus coincer maintenant.
Ce qui est dommage, c'est que ça devrait être la force de Movistar et la force de BMC d'avoir deux gars comme ça dans les 10 premiers. Ils se montent les uns sur les autres.
Donc l'union ne fait pas la force.
Chris Froome a-t-il déjà le tour gagné? On vous pose la question sur le compte Twitter de RMC Sport. La réponse pour l'instant est assez unanime. 81% d'entre vous pensent que c'est déjà fait contre 19%. Vous avez encore...
Il y en a 19% qui doutent.
Oui, 19% qui doutent. Et parmi messieurs, c'est 19%. Bruno qui est avec nous au 32-16 et qui va tenter de vous convaincre. Pas facile, Bruno, de convaincre la Dream Team dans son ensemble. Bruno, t'as intérêt à être d'attaque.
Ah ouais, alors je suis d'attaque là, mais je me sens tout petit là devant
vous. Je suis d'accord avec toi, Bruno.
Jérôme, au moins un coureur professionnel digne de ce nom qui pense pas que Froome va tout casser.
Non, mais il a l'habitude de tourner sa veste.
Il vient d'acheter ton billet.
Alors Bruno, dis-nous pourquoi tu penses que le tour n'est pas encore gagné pour Chris Froome.
Là où on est d'accord, c'est que c'est lui le mieux placé. Après, tout le monde nous parle de la troisième semaine. Et bien ça y est, la troisième semaine, ça commence demain. Donc ce qu'ils ont attendu comme Romain Bardet, même si c'est pas mon favori du tour, il peut jouer les trublions et faire du mal. Et vous savez quand même que 1 minute 50 sur un ou deux cols, il faut avoir zéro problème, zéro pépin. Et moi, je me dis qu'à Mollema, pourquoi pas aller gratter 40 ou 50 secondes. Parce que hier...
Mollema. Hier, les deux autres tombent, on le remet avec.
Lui est tombé en plus.
Il n'a pas cassé son vélo.
Il a eu une vraie réaction de champion, et j'allais dire, et c'est pas offensé mes amis bataves, mais il a une vraie réaction.
Les amis bâtards, j'ai pas compris.
Bataves. Vraie réflexion néerlandais hier, il a dit, moi je trouve pas normal qu'on l'ait remis dans la course. J'avais repris du temps sur Froome, on lui a demandé est-ce qu'il se sentait capable de battre Froome, il a dit oui, il ne se sent capable de battre Froome.
Alors le débat sera relancé à Paris si effectivement il battu de quelques secondes.
Il y a une chose qui est sûre, il y a une chose qui est sûre avec Boko Mollema, c'est qu'il va pas faire de complexe et il va en mettre.
Il va rien lâcher.
Donc pour toi Bruno, Boko Mollema peut encore inquiéter Chris Froome.
Oui, parce que physiquement, donc comme on le disait, il a prouvé quelque chose quand même hier, et sa réaction, on va dire, de mécontentement, mais de dire j'ai trouvé sain et très motivé, et je crois qu'il va pas se contenter de faire second et qu'il va tout jeter dans la bataille, parce qu'il sait qu'il aura pas deux fois l'occasion de faire ce qu'il est en train de faire, donc il va y aller à bloc.
Mais attention, parce que derrière lui il y a une équipe, il y a Trek Segafredo et un coureur qui est bien placé, et ils vont peut-être le canaliser, le petit Mollema, pour lui dire écoute, deuxième ou troisième, c'est déjà bien.
Non, mais en plus, moi ce qui me dérange, c'est que il est tout seul face à une grande équipe Sky qui va avoir le coup de main de Quintana, de Valverde et des BMC, parce que tout le monde va courir pour la deuxième place. Et ça
on
va
est d'accord, Bourdi, mais t'as vu hier, ils étaient trois, et après, c'est chacun pour sa pomme. Donc si Mollema,
il est proche encore. Là aujourd'hui, le classement il est fait.
Là, on est loin maintenant.
T'as raison que c'est le pire danger, c'est que tout le monde court pour la 2, la 3 et la 4.
C'est pas un danger, ce sera une réalité. C'est toujours une réalité.
Oh là, vous me déprimez, messieurs, vous me déprimez, Cyril, arrêtez de nous déprimer. Ça suffit, c'est pas le genre de...
J'ai des cachets pour ça.
Oui. Bruno, moi il m'a remonté le moral, Bruno. Du coup, je t'offre le livre Pédale, la grande aventure du vélo. Voilà, t'as pas tout.
C'est super sympa à vous. Merci à l'équipe, et j'embrasse toute ma famille qui m'écoute de l'autre côté, mes enfants. Gros bisous.
Eh ben on les embrasse aussi. Merci allez. Bruno. Juste un petit mot avant de nous arrêter sur le bord de la route pour un petit arrêt pipi, évidemment. On va parler des Français, Cyril. Bardet 7e aujourd'hui. Bon, c'est pas son exercice préféré, on s'en est rendu compte. Il a eu du mal dans le vent, mais enfin il a quand même limité les dégâts. Est-ce qu'il peut viser mieux que la 7e place? Est-ce qu'il peut remonter dans le top 5? Pourquoi pas espérer le podium? Lui, il va être obligé d'attaquer s'il veut remonter au classement.
C'est évident, mais jusqu'à présent, dans toutes les étapes de col qu'on a vu, soit arriver au sommet, soit dans le bas des descentes, à aucun moment il a été en capacité où on a senti qu'il était en capacité de faire une différence. Parce que pour revenir, on va dire, sur le podium, il y a un moment où il va falloir lâcher tous les adversaires qui se trouvent devant lui. Donc ça, c'est pas gagné. Alors, un autre moyen d'y arriver, c'est les défaillances ou les ennuis, quels qu'ils soient, qui puissent arriver. D'autant qu'on a encore un deuxième contre la montre.
Oui, mais un peu différent quand même.
Mais c'est quand même la vidéo de Max par rapport aux poids puissance qui fait les
cas. Ouais, et puis aujourd'hui, on a vu que c'était pas forcément, à part Tom Dumoulin, mais sinon, c'est pas que des grands spécialistes. Tony Martin a été relégué loin. C'est les costauds, et on les retrouvera très certainement.
C'est l'état de fléchure.
Le dernier chrono, t'as raison.
Et complètement.
Il y a quand même eu une belle performance française aujourd'hui, on peut le signaler, c'est Jérôme Coppel, quatrième. Même si dans le classement général, Jérôme n'y figure plus, c'est quand même une belle performance de sa part.
Les autres Français, ça confirme son championnat du monde de l'an dernier.
On va écouter Romain Bardet, ensuite on va évoquer les autres Français, notamment Thibaut Pinot, qui lui a dit adieu à ce Tour de France 2016 qui s'est vraiment déroulé dans les pires conditions pour le leader de la FDJ. Tout d'abord, Romain Bardet, après donc son chrono du jour et sa place donc au classement général, 7e ce soir.
C'était difficile, j'ai été chahuté comme tout le monde par le vent et les routes. Après c'était difficile de se mettre dans le bain aujourd'hui après ce qui s'est passé hier. Après j'ai donné mon maximum, donc j'ai vraiment donné tout ce que j'avais dans le ventre aujourd'hui. C'est un effort délicat que je ne maîtrise pas totalement encore et je suis content que ce soit derrière moi. Voilà, on va être obligé de se découvrir, chacun va être obligé de passer à l'attaque. Je ne sais pas encore cracher tout mon venin, j'espère. Et voilà, j'espère que vous entendrez parler de moi la semaine prochaine.
Bon, on espère qu'on entendra parler de Romain la semaine prochaine, parce que la troisième semaine de ce Tour de France sera magnifique avec ces étapes qui pourraient faire de gros écarts et peut-être, pourquoi pas, permettre à Romain Bardet de remonter au classement. En revanche, le Tour 2016 est terminé pour Thibaut Pinot, qui a donc quitter la route du Tour aujourd'hui. Thibaut Pinot qui souffrait d'une bronchite depuis quelques jours et qui avait en plus, Jérôme, faut bien le dire, le moral dans les sockets. C'était peut-être pas la peine de continuer là. Il a fait le bon choix selon toi?
J'espère qu'il a abandonné parce qu'il est malade, sinon il y avait encore un maillot à poids à aller chercher, des belles victoires d'étape dans les Alpes, donc je suppose que s'il a quitté la route du Tour, c'est qu'il est malade et pas parce qu'il avait le moral dans les chaussettes. Je crois en la sincérité de
peut-être,
Thibaut.
Peut-être un peu des deux quand même, non?
Peut-être.
Parce que quand tu as encore un gros moral, mais même si t'es malade, tu t'accroches.
Peut-être que cette maladie expliquera aussi sa méforme des Pyrénées, peut-être. Oui. Quand on chope un virus, bien sûr souvent, 2-3 jours avant, on est moins bien et on découvre finalement qu'on était malade. Alors, on verra. Thibaut fera certainement des analyses, ira voir des spécialistes pour savoir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je pense et j'espère et je peux pratiquement assurer que Thibaut Pinot a quitté la route malade et pas sur un coup moral.
Ouais. Non, mais Thibaut n'était pas à son niveau. Là.
Non, ça c'est sûr.
De toute façon, il le disait. Hein. Même si après le mental pouvait se relancer un tout petit peu pour ce maillot, mais on l'a vu, à chaque fois, il lui manquait de finir l'étape. Hein.
Il n'était pas dans le match.
Non.
Il n'était pas dans le match et ce dès le début. Tiens, on écoute son manager, Marc Madiot, forcément déçu, même s'il n'y avait plus grand chose à espérer pour Thibaut dans ce Tour de France. Marc Madiot.
Oui, évidemment, avec les difficultés qu'il a rencontrées tous ces derniers jours, on pouvait assez facilement supposer que ça allait devenir compliqué de continuer. Donc on est en train de faire des examens, mais on s'est rangé à la décision du toubib qu'il était préférable qu'il en reste là.
Voilà, c'était préférable qu'il en reste là. On n'a pas entendu la suite de l'interview, mais Marc Madiot a évoqué également la sélection de Thibaut pour les Jeux Olympiques, Cyril, puisque les Jeux arrivent rapidement. Quand on quitte le Tour malade, est-ce qu'on peut prétendre quelques semaines plus tard aller espérer remporter une médaille aux Jeux Olympiques à Rio?
Bien, il y a deux choses. Un, il faut qu'il fasse un bilan médical pour savoir s'il y a quelque chose sur le plan médical. Quand je dis quelque chose, le fait d'avoir une bronchite, c'est facile à vérifier, mais voir s'il y a derrière d'autres soucis. S'il n'y en a pas, j'ai envie de dire, c'est encore jouable parce qu'il sort quand même de 15 jours de compétition. Donc sur le plan de la condition physique, de l'entraînabilité, il est dans le coup. Son niveau de performance n'est pas entamé par rapport à cela. Son niveau de performance ne peut pas l'être. Ensuite, c'est comment retrouver ce niveau de performance par une activité physique, cycliste, d'entraînement pour retrouver justement ce 100% pour les Jeux. Pour ça, il faut qu'il y ait aussi le déclic. Ouais. Au niveau du mental, ouais. Car on est quand même conscient aujourd'hui, même si on fait semblant de pas en parler, que ce garçon a quand même un problème pour se motiver à 100%, pour être dedans à 100%.
On en reparlera évidemment. Donc Thibaut Pinot qui dit adieu au Tour de France 2016. L'année prochaine, il visera peut-être le Giro. On le reverra peut-être sur les routes du Tour.
Mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut dire ça.
Mais oui. On a encore le temps évidemment. La route sera longue avant le Tour de France 2017. 19h48, vous êtes sur RMC. On continue de débriefer cette étape et on va dans un instant évoquer l'étape de demain. Retour dans la plaine, retour des sprinteurs également qui ont vécu des journées un peu plus compliquées et qui demain vont retrouver leur terrain de prédilection entre Montélimar et Villars-les-Dombes, le parc des oiseaux. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
19h51, toujours en direct de la ligne d'arrivée de cette 13e étape aujourd'hui, la caverne du Pont d'Arc. Nous sommes à côté d'un site préhistorique, la grotte Chauvet et la caverne du Pont d'Arc qui a été, oui, je vois Pierre-Yves Leroux là-bas, mon archéologue préféré avec qui nous sommes allés visiter tout à l'heure cette caverne du Pont d'Arc. En deux mots, Pierre-Yves, impressionnant quand même, hein. La reconstitution
de la grotte Chauvet. C'est le facsimilé, effectivement, magnifique, 33 000 années nous contemplent.
36 000.
Oui, après les datations, c'est pas toujours évident.
Oui, à 3000 années près.
Ouais, on n'en est plus à ça près. Mais c'est vrai que c'est magnifique avec des peintures extraordinaires, ouais. Enfin des dessins magnifiques de chevaux. C'est vraiment superbe.
Ouais, ils étaient doués en peinture.
Plus que nous.
Nos amis préhistoriques, Cro-Magnon et sa bande étaient pas mal. Nous allons évoquer maintenant l'avenir. Hein. Nous avons parlé du passé. L'avenir immédiat, c'est la 14e étape du Tour de France. Demain, donc, il va conduire le peloton de Montélimar jusqu'à Villars-les-Dombes, le parc des oiseaux. Un magnifique parc ornithologique avec donc le retour de la plaine, 208 500 km au programme. Et là, eh bien, ce sont les sprinteurs qui devraient s'en donner à cœur joie. On va tout de suite parier sur le vainqueur de l'étape. Une nouvelle fois aujourd'hui, nous n'avons pas été brillants. Benjamin Ramager va nous le confirmer dans un instant. Il est avec nous.
PMU.fr, Paris sportif, Paris éthique, poker.
Et oui, il est là, le Benji. Bonjour, bonsoir Benji.
Ouais, salut messieurs, on commence à devoir un petit peu d'argent à la banque. Là.
Ah oui, ça va mal, ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis cette histoire. Le leader
on
du classement
général. On n'a pas mis un seul pont.
Moi j'avais donné Chris Froome, il fait deuxième.
Ouais, vous avez donné Chris Froome. Avec Jérôme, on avait donné Tony Martin. Résultat.
Ah, Martin, il est loin.
Ouais, il est un peu loin. Et du coup, il est 9, ouais, selon ma fiche. Et du coup, c'est Bourgui qui récupère le maillot vert. Il y a une bataille Bourgui-Jérôme pour avoir deux maillots.
Je vais pas te lâcher comme ça.
Bourgui, il est à poids et en vert.
Oh, mais vert plus que toi.
Cyril, il est où dans ses classements là? Il est où, Cyril, dans ses classements? Il a un maillot quand même ou non?
Non, non, le jaune pour Jérôme Pinault, le vert et le maillot à poids pour Thierry Bourguignon.
Bon, on a fait tomber l'ancien.
Je veux bien donner le maillot blanc à Cyril, mais c'est pas très équitable.
Mais moi, je suis l'oiseau de mauvaise augure.
Tu es la bécane.
Demain, on arrive au parc des oiseaux. Ça tombe bien, demain, on arrive au parc des oiseaux.
J'avais donné Froome puisque tu m'avais copié.
Une nouvelle fois, je suis dans la roue du druide, mais j'arrive pas.
C'est vrai que du moulin, il fallait y penser.
Chaque fois que je prends un canasson, il gagne pas.
Ou alors, je vais arrêter de te suivre finalement.
Il finit à toute heure.
Alors, demain, le retour des sprinteurs, Benji, ce sont eux qui ont les faveurs des pronostics.
Oui, c'est Marcel Kittel qui est le grand favori pour gagner l'étape de demain. Il est à 2,80. Derrière, Marc Cavendish, 3,90. Et Greipel à 5,60. Donc, les cadors du sprint sont là. On retrouve après Christophe et puis le duo Sagan-Cocard. Moi, je vais jouer Sagan parce qu'à chaque fois, je calcule pour essayer de me rembourser mes pertes. Donc, cote de 12, Peter Sagan.
Bon, je vais donner Marcel Kittel. Comme ça, au moins, ce sera fait. On ne m'accusera pas de copier. Thierry.
Vu le chrono, j'ai mis Cave.
Le Cave.
C'est celui qui a fini le plus loin.
C'est une journée de repos aujourd'hui pour le Cave, presque. Hein. Est-ce que c'est une journée de repos pour les sprinteurs quand on doit faire 37 km 500 comme ça?
Aujourd'hui,
il y a quand même des délais à respecter ou
non, pas du tout? 25%, tu pars avec tranquille. Une jambe de bois, tu y arrives.
Si tu es pas malade et que tu peux t'asseoir sur ta selle, tu es tranquille. Mais par contre, j'ai une info moi sur Cave. La rumeur courait qu'il allait quitter le tour. Non. Il a comme objectif d'aller jusqu'à Paris.
Jusqu'à Paris.
Exactement.
Et est-ce qu'il est encore dans le coup d'ailleurs pour le classement du maillot vert? C'est fini hein, pour
Il est toujours dans le classement, mais
il n'y a plus personne dans le coup puisque Sagan
a 90 points de retard. 90 points de retard.
Ah oui, 90 points. Il faut qu'il gagne deux étapes et que Sagan ne marque que 9 points.
Il reste deux étapes.
Mon Benji, c'est lui. Hein. C'est Cavendish pour Paris pour demain.
Ah non, ben non, je voulais.
T'es resté longtemps à la cave avec lui?
Longtemps, ouais.
Mais il fait du délit d'initié, Jérôme, parce qu'il va avoir les coureurs. Et dis donc,
on connaît l'arrivée. Ouais. On est arrivé l'an dernier là-bas. C'est pas une arrivée pour Brian demain. Ça arrive très vite. C'est limite faux plat descendant. Et Boigny s'était imposé là-bas l'an dernier au Dauphiné libéré. Ça vient très vite et à ce genre d'exercice, Cave est le plus fort en ce moment.
Ok, donc Cavendish pour Thierry et pour Jérôme. Que va nous dire Cyril pour
Je vais vous permettre de creuser les écarts en prenant Greipel.
Ah, André Greipel.
C'est pas mal aussi.
Échappé hier.
C'est celui qui s'est défoncé le tour
sans gagner une étape.
Greipel, c'est pas arrivé.
C'est celui qui a fait le meilleur chrono de tous les sprinteurs.
Il ne va pas en gagner.
L'étape pour Greipel, c'est quand même les Champs-Élysées. C'est ce qui lui correspond le mieux.
On parle de celle de demain. Hein.
C'est pas les Champs-Élysées demain.
Non, c'est les Champs-Élysées à Lyon.
C'est les Champs-Élysées.
On va voir combien d'oiseaux, Christophe.
On va en voir un paquet. Et on va en voir 3000, figure-toi, de 300 espèces des différents continents. Voilà tu sais tout. Demain,
on les voit comment
après avoir visité les grottes aujourd'hui, nous allons voir les oiseaux demain. Nous allons nous balader avec mon bon Pilou.
Parce que les oiseaux vont s'envoler et partir.
Pilou, tu t'y connais autant en oiseaux qu'en
homme préhistorique, je suis pas sûr. Très bien, voilà pour les paris. Merci Benji, on se retrouve demain évidemment.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et pour nous, c'est terminé pour ce soir. On est bien content que cette journée s'achève ici sur les routes du Tour en espérant que demain le moral revienne. Merci Jérôme, merci Cyril. Merci Thierry. On vous retrouve demain. Thierry va même revenir dans quelques instants accompagné de notre Lucho national. Et pour les driver demain de mettre Nicolas Bensoussan. Il y a du boulot quand même. Salut Nico.
Merci Christophe. Salut et merci de nous avoir donné un petit peu le sourire dans cette journée bien sûr si particulière. L'intégral sport débute dans un instant et nous aussi on va débriefer le contre-la-montre hein, du jour au Tour de France avec Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. Le 32-16 est ouvert, posez vos questions bien sûr à Lucho et Bourgui. On fera des points réguliers également sur les matchs amicaux de Marseille ou encore de Toulouse de tennis avec Luc Apouille qui joue en ce moment face à Jiří Veselý en République Tchèque, Eric Salio et sur place Florent Serra nous rejoindra notre consultant pour débriefer les deux premiers matchs de l'équipe de France. On rappelle que Tsonga a perdu la première rencontre et puis le meeting Hercules à Monaco, c'est de l'athlétisme, c'est juste à côté de Nice et Julien Morin est sur place.